Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le thème que nous reprenons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Elle emploie même plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre la place qu'elle doit occuper dans notre vie.
Dans ses écrits, l'apôtre Paul affirme que l'Église est le temple de Dieu. Que voulait-il dire par là? Voilà le sujet de cette courte série.
Nous discuterons de cette question en compagnie de notre invité Jean-Philippe. Jean-Philippe, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous.
Jean-Philippe, pouvez-vous commencer par rappeler ce que nous avons appris la dernière fois et par introduire le sujet de notre discussion pour aujourd'hui?
Bien sûr. La dernière fois, en nous basant sur l'enseignement de l'apôtre Paul, nous avons surtout condamné toutes les pratiques possibles de l'idolâtrie. De même que le temple de Jérusalem était consacré uniquement à l'adoration du seul vrai Dieu, l'Église, qui est le nouveau temple vivant, doit rester pure. Autrement dit, nous ne devons pas importer des éléments idolâtres ou occultes d'autres religions pour les introduire dans la foi chrétienne. Pour reprendre le langage de l'Ancien Testament, cela représente une abomination. Aujourd'hui, nous verrons que l'apôtre Pierre a lui aussi décrit l'Église en employant le langage utilisé pour décrire le temple de Jérusalem. Écoutons à présent ce qu'il a écrit dans sa première lettre, au chapitre 2, dans les versets 4 à 5.
Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ.
Merci. Pour commencer, il serait bon de savoir qui est la pierre vivante décrite au début de la citation.
La pierre vivante, c'est Jésus-Christ, qui a été rejeté par les autorités religieuses et politiques de son époque. Ces derniers ont comploté pour le crucifier. Il n'en demeure pas moins que Jésus a été choisi par Dieu pour accomplir une œuvre de salut, une œuvre de délivrance et de rédemption au travers de sa crucifixion. Puis, Dieu l'a ressuscité et il l'a élevé pour être le roi souverain de l'univers.
L'apôtre Paul affirme dans ses écrits que Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre sur laquelle le temple entier dépend et repose. Pierre de même apporte le même message, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Jésus est la première pierre vivante. Il est la pierre la plus importante. Jésus est au centre du nouveau temple, l'Église. L'édifice de l'Église, en tant que communauté des croyants, se construit autour de Jésus. Jésus est au cœur de la foi chrétienne. Si nous perdons de vue ces vérités, si nous écartons Jésus de notre foi et de notre piété, si nous nions les doctrines fondamentales à son sujet, alors l'Église est en danger. Car elle n'est plus ancrée sur ses fondations et elle ne dépend plus de la pierre angulaire.
Merci pour ce rappel important. Pierre s'adresse aux croyants et il les exhorte en ces termes. « Édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Que voulait-il dire par là?
Selon l'apôtre, chaque chrétien est une pierre vivante. De ce fait, il est en relation avec la pierre angulaire qui est Jésus, mais aussi avec les autres pierres vivantes. Car le nouveau temple est une communauté. Dans ce nouveau temple, chaque pierre vivante a sa place et elle a un rôle à jouer. C'est comme dans une construction quelconque. Chaque brique ou chaque parpaing dans une maison repose sur d'autres et en soutient d'autres. Le chrétien ne vit pas seul, il ne vit pas isolé des autres. Non, il fait partie d'un grand ensemble de personnes. Il dépend des autres et les autres dépendent de lui.
En effet, mais comment vivre cela au quotidien?
Notre présence au culte et aux activités de l'Église est importante. Nous avons tous des aptitudes et des dons, et selon nos possibilités, nous pouvons les mettre au service de l'Église. Il existe divers ministères au sein de l'Église auxquels nous pouvons participer et apporter notre contribution. De plus, nous sommes appelés à aimer nos frères et nos sœurs, à les servir, en les soutenant dans les moments difficiles ou en les aidant à faire des progrès dans la foi.
Merci. Et l'apôtre Pierre compare le croyant non seulement à des pierres vivantes, mais aussi à des prêtres qui présentent des sacrifices et des offrandes.
C'est exact, Yann. Il s'agit là aussi d'un langage inspiré du temple à Jérusalem. Dans la religion juive, seuls les prêtres avaient le droit d'entrer au cœur du temple, et ceci pour offrir des sacrifices et des offrandes de la part du peuple. Ces prêtres agissaient alors comme des médiateurs entre Dieu et le peuple.
Mais comment comprendre ce langage de prêtrise et d'offrande dans le contexte du nouveau temple vivant, l'Église ?
D'abord, il ne faut jamais perdre de vue que Jésus-Christ, la pierre angulaire, est à la fois notre prêtre et notre sacrifice par excellence. Beaucoup des sacrifices offerts par les prêtres au temple de Jérusalem étaient destinés à régler le problème du péché. C'étaient des sacrifices de culpabilité, de purification ou de paix. Ils étaient offerts pour enlever la pollution spirituelle et morale du peuple et pour obtenir le pardon de leurs fautes et leur réconciliation avec Dieu. Toutefois, aujourd'hui, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, est le sacrifice par excellence pour le péché. Car en mourant sur la croix, Jésus a obtenu notre purification et notre pardon. Jésus est notre médiateur. Il est l'intermédiaire qui nous réconcilie avec Dieu. En conséquence, nous n'avons plus besoin de suivre tous les rites et les sacrifices prescrits dans l'Ancien Testament, dans les livres tels que l'Exode et le Lévitique. Jésus a tout accompli et de ce fait, nous n'avons plus besoin de prêtres tels que l'Ancien Testament nous les présente.
Alors si avec Jésus-Christ, une rupture avec l'Ancien Testament devient évidente concernant la prêtrise et tous les rites et sacrifices, comment comprendre les propos de l'apôtre Pierre, qui affirme, lui, que nous sommes des prêtres qui offrent des sacrifices?
Voici quelques éléments de réponse. D'abord, les écrits du Nouveau Testament affirment que tout chrétien est comme un prêtre. Cela veut dire que, de même que les prêtres de l'Ancien Testament avaient un accès privilégié auprès de Dieu, aujourd'hui, chaque chrétien peut vivre lui aussi ce même accès. Il peut vivre cette même relation privilégiée et personnelle, riche et intime avec son Dieu. Ensuite, les prêtres de l'Ancien Testament agissaient comme intermédiaires entre Dieu et le peuple. Or, nous aussi, de façon similaire, nous pouvons agir en tant qu'intermédiaires entre Dieu et le monde. En effet, nous pouvons intercéder devant Dieu pour nos familles et nos amis, pour notre quartier, pour notre pays. L'intercession est un ministère important. Nous représentons ainsi le monde devant Dieu. De même, nous pouvons témoigner de Dieu auprès de notre famille, de nos amis et de nos voisins. Nous leur parlons de Dieu, nous leur annonçons un message important de sa part, un message de paix, un message de pardon et de réconciliation. Enfin, s'il est question d'offrir des sacrifices, ce doit être des sacrifices de reconnaissance. De tels sacrifices étaient déjà offerts dans le temple à Jérusalem, souvent sous forme de dons, d'animaux ou de céréales. Et Pierre précise qu'à présent, nous pouvons offrir des sacrifices spirituels. Ayant reçu la grâce de Dieu et tant de bénédictions, nous ne pouvons que lui exprimer notre reconnaissance. En lui offrant notre vie entière, en se mettant disponible pour le service, en lui offrant nos dons et nos aptitudes, en lui donnant notre temps et notre énergie, en lui apportant tout ce que nous sommes, en lui disant au quotidien « Me voici, que puis-je faire pour toi ? Comment puis-je contribuer à l'édification du nouveau temple vivant ?»
Merci Jean-Philippe de nous avoir ainsi éclairé. Nous arrivons à la fin de cette série sur l'Église, le temple vivant. Nous vous remercions Jean-Philippe pour votre participation enrichissante.
Tout le plaisir est pour moi. Merci et au revoir à tous.
À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean. Jafar nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean, chapitre 3, les versets 11 à 17.
En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
Merci et bonjour à tous. Aimons-nous les uns les autres. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière de nos méditations sur ce texte et l'apôtre Jean nous soumet un exemple précis destiné à nous aider à mettre en pratique cette exhortation de nous aimer les uns les autres. Le premier exemple concerne particulièrement les personnes riches. Jean les encourage à pratiquer la générosité envers ceux qui ont de réels besoins, envers ceux qui sont pauvres et ne s'en sortent pas. L'apôtre Jean encourage ses chrétiens aisés à exprimer leur solidarité, leur compassion envers les pauvres et les démunis par des gestes d'amour concrets qui apportent une aide et un secours réel. Souvent, nous pouvons exprimer notre amour par des paroles de réconfort, de consolation ou d'encouragement. Toutefois, Jean insiste pour dire que dans certaines situations, les paroles ne suffisent pas, car une aide ou une intervention plus pratique devient alors indispensable. Comme par exemple payer les frais médicaux d'une personne démunie pour lui permettre de se faire soigner, offrir un repas à une famille affamée, recueillir un orphelin sous son toit, apprendre à une personne illettrée à lire, former un jeune chômeur à un métier, faire les courses ou le nettoyage de la maison d'une personne alitée. Voir quelques exemples de situations où les paroles ne suffisaient pas, car il faut plutôt passer à l'action. Vous pouvez sans doute penser à d'autres exemples. L'important est que notre amour aille plus loin que nos paroles afin de pouvoir aider de façon efficace et appropriée nos frères et sœurs en Christ. Réfléchissons donc aux personnes qui fréquentent notre Église, pensons à notre entourage et demandons-nous « Que pourrais-je faire aujourd'hui ?» pour aimer un frère, une sœur.
Merci. Nos deux séries se terminent aujourd'hui. Nous remercions Jean-Philippe et Jafar pour leur participation à nos émissions. La prochaine fois, nous écouterons un témoignage. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.